France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui, sixième et dernière de nos émissions spéciales sur les élections présidentielles depuis 65, le 7 mai 1995, la victoire de Jacques Chirac.
5, 4, 3, 2, 1, Jacques Chirac, 62 ans, est le cinquième président de la 5e République. Les chiffres, Roland Carol.
Estimation CSA, France Inter, 20h, Chirac, 52%, Jospin, 48%.
D'histoire. Ce fut l'élection de toutes les surprises. Cinq mois avant la présidentielle de 95, personne n'aurait pu imaginer que Jacques Chirac et Lionel Jospin se trouveraient un jour face à face pour succéder à François Mitterrand. En décembre 1994, le premier était au plus bas dans les sondages et le second n'était même pas candidat. À en croire les intentions de vote, deux hommes seulement étaient en mesure d'être élus président de la République, le Premier ministre en exercice, Édouard Balladur, et la coqueluche des sondages, l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand, celui sur lequel comptaient les socialistes, Jacques Delors. C'est de lui qu'est venue la première surprise de cette élection, le 11 décembre 1994, dans l'émission d'Anne Sinclair, 7 sur 7.
Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle?
J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
France Inter.
Jacques Delors a mis fin hier soir à plusieurs semaines d'attente fébrile et aux illusions de la gauche qui voyait en lui le seul candidat susceptible de remporter l'élection présidentielle en effaçant quasi miraculeusement la défaite historique des législatives de mars 93. Il a invoqué son âge, 70 ans bientôt, ses 50 années de travail sans relâche et surtout l'absence de majorité pour gouverner s'il était élu.
Pascal Perrineau, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes professeur à Sciences Po, directeur du Centre d'études de la vie politique française. Alors en politique, justement, il est quand même assez rare de voir un homme renoncer à un pouvoir qu'il avait pratiquement à portée de main, comme l'a fait Jacques Delors à 4 mois des présidentielles de 95. C'est une des nombreuses surprises de cette élection présidentielle de 95 dont nous allons parler avec vous. Ça a été une série de surprises, ces élections. Peut-être aucune élection avant n'a réservé autant de rebondissements que celle-là.
En effet, on est allé de surprise en surprise en 95, bien que chaque élection présidentielle réserve toujours au moins une surprise. En 1974, c'était la chute de Chaban. En 1988, c'était la percée de Le Pen. Il y a toujours une surprise. Mais là, en effet, en 95, on a été servi.
Est-ce que la surprise aussi, ce n'est pas au fond, d'une certaine manière, beaucoup l'ont dit à l'époque, le grand vaincu ou les grands vaincus de ces élections, c'est-à-dire les sondages, ils ont été omniprésents dans cette campagne. Si Jacques Delors, si on a pensé à Jacques Delors, c'est que les sondages le donnaient gagnant. On verra que les sondages ont poussé Édouard Balladur à se présenter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces sondages, ça aussi c'est une surprise, ne sont pas trompés dans ces élections de 95?
Les sondages jusqu'au bout, en effet, feront une erreur. C'est de donner Jacques Chirac en tête au premier tour, alors que ça sera Lionel Jospin. Mmh. Mais en revanche, auparavant, les sondages, c'est un instrument de mesure de l'opinion. L'opinion a changé. Si vous voulez, dans les années 90, en effet, on avait déjà affaire à une opinion, comme l'on dit, volatile, changeante, qui, en fonction des effets de campagne, passe d'un candidat à un autre. Et je crois qu'il ne faut pas prendre les sondages pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire un instrument de prédiction. C'est un instrument de mesure de l'opinion. Cette opinion a fluctué. Je crois vraiment qu'il y a eu un phénomène Delors. Delors ne passant pas à l'acte, en effet, cet électorat ensuite s'est reclassé sur d'autres candidats.
Oui, mais avant Delors, Pascal Perrineau, il y a eu parce que des rebondissements, des sondages, il y en a eu à droite, il y en a eu à gauche. Mais à gauche, avant Delors, on avait par exemple pensé à Michel Rocard. Jusqu'au moment où il a quitté la direction du PS à la suite des européennes de 94, c'était lui le candidat idéal de la gauche.
Alors, en effet, il faut bien voir qu'à l'époque, la gauche sort d'une sanction électorale redoutable, celle des législatives de 93. La gauche est à terre. La gauche, d'autre part, sait très bien qu'il faut organiser l'après-Mitterrand. Donc elle a deux défis à relever. se relever de l'inexistence électorale. À l'époque, les Verts sont en train de flirter avec le niveau électoral du Parti Socialiste, hein, faut surtout pas l'oublier. Et puis elle sait très bien qu'il n'y aura plus le leader, le vieux leader qu'a été François Mitterrand. Donc elle est engluée dans l'après-Mitterrand. Alors il y a plusieurs solutions. Prendre le chef du parti en l'occurrence c'était Michel Rocard, mais Michel Rocard vient d'être battu en emmenant la liste socialiste avec un très mauvais score aux européennes de 94. Donc on peut se tourner, si on ne se tourne pas vers le chef du parti, on peut se tourner vers la coqueluche des sondages. Et on se tourne vers Jacques Delors. Mais Jacques Delors ne veut pas y aller. Alors il reste, eh bien on rentre ensuite, sans que ça soit péjoratif, dans les seconds couteaux. Donc vont être candidats à la procédure de sélection ensuite des hommes qui ne sont pas très connus à l'époque. Jospin et Emmanuelli.
Justement, on n'en parle pas beaucoup. Je vous propose d'écouter justement la réaction au renoncement de Jacques Delors le 11 décembre 1994, une décision qui a été évidemment abondamment commentée par les journaux du lendemain, puisque à 4 mois des élections, la gauche n'avait toujours pas de candidat. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
La France entière, ou presque, était donc suspendue aux lèvres de Jacques Delors. Plus de 11 millions de téléspectateurs pour son intervention à 7 sur 7 sur TF1, un record d'audience. Sera-t-il le prochain candidat de la gauche pour la présidentielle, voire le futur président de la République? Eh bien, le suspense fut intense, mais il a dit non. « Je ne veux pas être président de la République pour jouer les rois fainéants », a-t-il dit. « Je ne veux pas mentir aux Français ». Le lendemain, tous les journaux rendent hommage au courage, au désintéressement de cet homme qui ne s'est pas laissé tenter par les sirènes du pouvoir. La Croix, par exemple, salue l'honnêteté d'un homme. Jean-Marie Roire, dans le Figaro, évoque la position de sage, voire même de saint, de Delors, l'homme qui ne voulait pas être roi. Mais passé les louanges, ce nom, constate le Parisien, a fait l'effet d'une bombe à gauche et laisse pour l'instant les socialistes orphelins. À droite, remarque le Parisien, ce retrait bouleverse aussi la donne en ouvrant encore davantage le jeu. Pour Fabien Roland-Lévy, dans son éditorial, les jeux sont faits. Rideau, dit-il, Jacques Delors avait provisoirement ressuscité la gauche hier soir, il l'a achevé. L'éditorialiste du Parisien n'envisage même plus qu'il puisse y avoir une candidature socialiste au deuxième tour. Les deux seuls, dit-il, qui aient la dimension sont Rocard et Fabius, mais ni l'un ni l'autre ne sont en situation. On remarquerait qu'il n'envisage même pas encore Lionel Jospin. Dans Le Monde, Jean-Marie Colombani est très sévère pour la gauche. Jacques Delors, dit-il, vient de lui adresser une leçon de pureté et de dureté, en lui rappelant, après 14 ans de mitterrandisme, quand on conquiert le pouvoir, ce n'est pas pour le garder, mais pour transformer la société. Sur la désignation d'un candidat socialiste, le journal Le Monde cite les noms d'Henri Emmanuelli, Michel Rocard, Pierre Mauroy, même Bernard Tapie. Mais là non plus, ce jour-là, toujours pas de Jospin. Même son de cloche dans Libération, sous la plume de Jean-Michel Thénard. Le catholique Delors, écrit-il, vient d'asséner une belle leçon à ceux qui ont cru au miracle de la rédemption. Mais la droite, qui jusqu'alors envisageait l'idée d'une candidature unique, peut s'attendre elle aussi à quelques turbulences. Aujourd'hui, sans la menace de l'or, remarque le journaliste de Libération, la droite risque de retourner à l'état sauvage à force de se déchirer entre de multiples candidatures.
Alors les turbulences à droite, Pascal Perrineau, on en reparlera, mais c'est marrant, on ne parle absolument pas du Jospin. C'est vrai qu'il ne posera sa candidature que 2 mois plus tard.
Hein. En effet, on ne parle pas de Jospin qui à l'époque est un homme politique oublié, qui n'a pas de véritable courant dans le Parti Socialiste, qui est en dehors largement des jeux d'appareil, qui n'apparaît pas comme l'héritier de Mitterrand, puisque Fabius est, j'allais dire, dans cette fonction d'héritier du président Mitterrand. Donc en effet, Jospin, on va le sortir de la boîte. Mais il faut bien voir, à l'époque, que les socialistes sont à la recherche d'un renouvellement. Comment sortir de l'après-mitterrandisme qui s'annonce? Et là, il faut bien voir que derrière les aspects catholiques, saints, entre guillemets, de Jacques Delors, il y avait autre chose qui se disait dans le phénomène Delors. Delors voulait aller très loin dans le renouvellement. Parce que derrière lui, il y avait la tentative de créer une nouvelle majorité qui ne soit pas une vraie majorité de gauche. Ça se situe 2 ans après l'approbation du traité de Maastricht. Et Jacques Delors se rend bien compte qu'il y a en France un mouvement qui est en faveur de l'Europe et qui a des soutiens à gauche avec le Parti Socialiste, mais à droite avec l'UDF. Et le projet, au fond politique de Delors, c'était de créer une nouvelle majorité, et comme il le dit lorsqu'il ne se présente pas, je n'ai pas la majorité pour gouverner, parce qu'il sait très bien que les centristes européens en particulier ne viendront pas avant l'élection présidentielle avec lui.
Donc Jospin, en tout cas, n'est désigné par le PS que le 3 février 1995, 2 mois et demi seulement avant le premier tour, et selon les sondages d'ailleurs, il n'a, et même d'ailleurs selon les commentateurs de gauche, il n'a aucune chance, personne n'imagine à ce moment-là qu'il pourra être au deuxième tour.
En effet, à l'époque, une fois le rêve de l'Orient parti, on retombe, j'allais dire, dans du clivage gauche-droite traditionnel. Et les Français ont, dans un premier temps, l'impression qu'on est allé chercher un homme de l'appareil socialiste. Donc cela n'est pas fait, dans un premier temps, pour créer un véritable mouvement populaire en faveur de Lionel Jospin. Cependant, il a un petit avantage, c'est qu'il est neuf, dans un contexte où apparaissent beaucoup d'hommes politiques qui ont déjà fait un tour, deux tours et parfois trois tours devant de la scène.
En tout cas, si à gauche on manquait de candidats, Pascal Perrineau, à droite en revanche c'était plutôt le trop-plein. Il y avait déjà Jacques Chirac, candidat depuis le mois de novembre 1994, Philippe de Villiers, Jean-Marie Le Pen qui ont posé leur candidature, et puis alors celui surtout qui va provoquer un véritable rebondissement dans la campagne électorale, Édouard Balladur, Premier ministre en exercice, qui était candidat le 18 janvier 1995.
J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. C'est la difficulté de la tâche entreprise. C'est l'ampleur de celle qui reste à accomplir. C'est la confiance de nos concitoyens, maintenue depuis 20 mois. C'est la nécessité du rassemblement le plus large possible des Français qui me détermine à solliciter leur suffrage.
La candidature d'Édouard Balladur, Pascal Perrineau, donc en janvier 95, le 18 janvier 95, ça c'était un véritable séisme à droite. Et au sein du RPR, il est RPR, il se présente contre le candidat du RPR qui est Jacques Chirac.
Tout à fait. Alors là, en effet, c'est pas tout à fait la première fois, puisqu'en 80, il y avait déjà eu des affrontements jusque dans les candidatures aux présidentielles au sein de l'appareil gaulliste ou néo-gaulliste. Souvenez-vous, en 80, il y avait une candidature Garot, il y avait une candidature Debré, il y avait une candidature Chirac. Mais là, bien sûr, j'allais dire, c'est une autre dimension. C'est
une trahison, mais bon, voilà. Certains, des
c'est
amis
une
de 30
trahison
ans.
D'hommes qu'on présentait comme étant des amis de 30 ans, mais il n'y a pas jamais de véritables amitiés de 30 ans dans le domaine politique. Ça ne dure jamais aussi longtemps. Et puis, au fond, il y a deux logiques qui s'affrontent au sein de la droite. Il y a une logique qui est une logique de légitimité gouvernementale. Je suis candidat parce que je suis Premier ministre et que j'ai fait mes preuves en tant que Premier ministre. Et puis, une légitimité du côté de Chirac, qui est une légitimité davantage partisane. Je suis candidat parce que je suis à la tête du principal appareil
que j'ai fondé
en 76.
C'est Chirac qui parle.
Voilà, et qui s'appelle le RPR. Et donc ce sont ces deux légitimités qui vont s'affronter avec un problème que l'on avait déjà connu dans l'élection présidentielle de 88, c'est pas évident de passer en quelques semaines du statut de Premier ministre sortant au statut de président gagnant.
Oui, mais on en revient encore au sondage, Pascal Perrineau. Si Balladur est candidat, c'est parce qu'aussi il dispose d'un soutien extraordinaire de l'opinion. Les sondages lui sont favorables. En tout cas, ils vont le rester, parce qu'il est devant Jacques Chirac dans les sondages, ils vont le rester jusqu'en février. Là, il y a un retournement qui va se produire.
Tout à
en
fait.
Pleine campagne.
Il y a un effet de ciseau, en effet, en février. Alors, il faut bien voir que quand il déclare sa candidature, il la déclare d'ailleurs de Matignon, ce qui n'a peut-être pas été très adroit, mais quand il déclare sa candidature, au fond, il est auréolé du succès de son gouvernement. Il a géré les affaires de manière assez efficace de 93 à 95. Mais à partir du moment où il est candidat, j'allais dire, il rentre dans la bataille. Et la bataille va être très rude pour des effets de conjoncture. Il ne faut pas oublier que Balladur va être atteint en particulier par toute une série d'affaires, et en particulier l'affaire Schuller-Maréchal, qui va commencer à participer au discrédit de cette figure qui jusqu'alors n'avait pas été touchée directement par les affaires. Et c'est un des éléments clés dans la campagne et dans le basculement du début février.
Qui aura l'autre à l'usure? Je me perds en conjecture. Ce sont tous les deux des durs. Chirac est au pied du mur, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
De l'orbène des pédakis.
De l'orbène des pédakis.
Que boulion mangea Chirac.
Que boulion mangea Chirac.
De l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Giscard des pédakis.
Giscard des pédakis.
Que boulion mangea de l'or.
Que boulion mangea de l'or.
Giscard de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Pasqua ben des pédakis.
Pasqua ben des pédakis.
Que boulion mangea Giscard.
Que boulion mangea Giscard.
Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
C'est que ben des pédakis.
C'est que ben des pédakis.
Que boulion mangea Pasqua.
Que boulion mangea Pasqua.
C'est que Pasqua, Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Balladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'élection présidentielle de 1995.
Commentée par les fabuleuses troubadours. Je vous très mauvais anglais, c'était en 95. Donc quel sera notre futur? Vous remarquez, Pascal Perrineau, qu'il n'est toujours pas question encore de Jospin, qui fait figure d'outsider encore dans cette campagne électorale, comme ceux que l'on appelle les petits candidats, qui sont nombreux, il y en a environ 6, dont Jean-Marie Le Pen, Robert Hue et la candidate des Verts, Dominique Voynet, qui déplorent tous la focalisation de la campagne sur les candidats les mieux placés.
L'un est un faux cul pincé, et l'autre un... Et l'autre un flambeur démago. Mais c'est bien la seule différence. Ce n'est pas de ce côté-là que nous attendons un quelconque changement.
Non, cette élection ne se résume pas à la compétition entre trois candidats seulement. Demain, face à la droite, il faudra résister, se défendre, se rassembler pour ouvrir une autre perspective de changement.
Je dis au pays, je serai candidat. Tant il est vrai que comme au football ou au basket, il faut changer l'équipe qui perd et ses dirigeants.
Alors ça, c'est une autre surprise de cette campagne électorale. Pascal Perrineau, vous le rappelez dans un livre, le vote de crise, l'élection présidentielle de 95, c'est d'abord le score important de Le Pen au premier tour, on le verra, environ 15%, mais c'est que l'ensemble de ce qu'on appelle toujours injustement les petits candidats, auxquels il faut ajouter, on a entendu Dominique Voynet, Robert Hue, Jean-Marie Le Pen, il faut ajouter Arlette Laguiller, Philippe de Villiers. Or, ils ont fait, il y a des petits candidats, il y en a toujours eu, mais rarement, je crois jamais, ils n'ont fait autant de voix ensemble, plus du tiers des voix, dont la moitié pour Jean-Marie Le Pen.
Tout à fait. L'élection présidentielle de 1995 s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement d'éclatement des préférences électorales. Les Français, depuis l'alternance des années 80, qui a vu la gauche arriver pour de manière durable au pouvoir, les Français sont déçus de cette alternance. Et donc ils sont à la recherche depuis d'un ailleurs. Un renouvellement. Comment sortir, au fond, de cette alternance entre deux grandes coalitions de gouvernement, le Parti Socialiste et ses alliés, et de l'autre côté, le RPR et ses alliés. Alors, cela se traduit de différentes manières. Certains se retirent du jeu politique, c'est la poussée de l'abstention. D'autres vont explorer vers des petites forces politiques.
Vous appelez les forces périphériques.
Voilà, les forces périphériques, en effet, qui sont pour certains complètement en dehors du système et le condamnent. C'est la violence, par exemple, de Le Pen dénonçant l'établissement et le système. Ou certains sont à la périphérie du système. Ils ont un pied dans le système, un pied en dehors. C'est les Verts. C'est, par exemple, Dominique Voynet à l'élection présidentielle de 1995, avant qu'elle choisisse, 2 ans plus tard, de rentrer véritablement dans une coalition avec le Parti Socialiste. Et cet éclatement des préférences électorales, il est favorisé également, je crois, par un second élément, c'est que les Français, dans les années 80 et 90, votent de plus en plus à la proportionnelle ou au scrutin mixte. Ils prennent là des comportements où ils se dispersent sur des forces qui ne sont pas des forces de gouvernement, et ils gardent ces attitudes, même lorsqu'il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours, comme l'élection présidentielle.
Alors, vote protestataire, besoin de justice, fracture sociale, dira même un candidat. En tout cas, les candidats les mieux placés en sont conscients. On écoute ceux dont personne n'imaginait d'ailleurs encore qu'ils seront face à face au deuxième tour, Jacques Chirac et Lionel Jospin.
C'est vrai que la fracture sociale qui s'élargit aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, et qui se traduit par un chômage, par de l'exclusion de plus en plus important, c'est de nature à inquiéter et ça peut être de nature à exaspérer. En tous les cas, c'est de nature à affaiblir notre pays et ce n'est pas socialement acceptable. La priorité pour la réduction de la fracture sociale est donc indiscutable.
Je suis le candidat d'une gauche que je veux porteuse des valeurs de justice. Oui, d'abord je propose une France plus juste.
Je veux écarter Balladur au premier tour et je le ferai. Je peux et je veux battre Jacques Chirac au second tour. Et avec vous, je gagnerai.
Alors battre Jacques Chirac, Pascal Perrineau, Lionel Jospin n'y arrivera pas. En revanche, et ce sera une autre grande surprise de cette élection, le premier tour, non seulement Lionel Jospin sera présent au deuxième tour, mais même il arrive en tête du premier tour. Je crois qu'il avait fait 23,3%. Hein. Donc ça, personne ne l'avait prévu. Les sondages, là encore, se sont trompés.
Oui, là, les sondages se trompent. Quant à l'ordre d'arrivée au premier tour, il y a là un véritable joker qui arrive à s'imposer. Il faut reconnaître cependant que les trois premiers arrivent dans un mouchoir de poche plus de 18% pour Balladur, 20% pour Chirac, 23% pour Lionel Jospin, le candidat du Parti Socialiste. Mais au-delà de cette surprise, en effet, jospinienne, je crois qu'il faut bien voir que à droite, il y a eu une dispersion des voix. En dehors du duo Balladur-Chirac, il faut bien voir qu'il y avait De Villiers qui exprimait au sein de la droite ce tempérament souverainiste. Et
il
que
a fait
tout
presque
même...
5%.
Ah, il a fait presque tour. 5%, ouais. On a quelque peu tendance à l'oublier. Et puis il y a le choc de Jean-Marie Le Pen avec 15%, plus de 15% des suffrages exprimés, et qui là vient semer le trouble dans l'espace de la droite. Et il faut que la droite soit tout de même assez forte pour résister à ce choc.
Oui, parce que dispersion des voix au premier tour, mais de voix qui risquent de ne pas être rassemblées. Si à gauche, Lionel Jospin, pour le deuxième tour, peut compter pratiquement sur les voix des autres candidats de gauche, sauf peut-être Arlette Laguiller. En revanche, avec ses 15% de voix, Jean-Marie Le Pen est un peu l'arbitre de la situation. Or, entre les deux tours, il appelle clairement à ne pas voter Chirac. Chirac, dit-il, est pire que Jospin.
Tout à fait. Le président du FN choisit en effet d'accentuer ce que l'on sentait d'ailleurs depuis le début des années 90, son hostilité vis-à-vis de Jacques Chirac. Il se situe non pas à l'extrême de la droite, mais il se situe de plus en plus dans un espace qui est entre la gauche et la droite, où il s'efforce de donner un débouché en particulier aux pulsions anti-européennes qui travaillent l'opinion publique française. Et il va créer au second tour tout de même une surprise, parce que au regard des résultats du premier tour, on s'attendait à ce que Jacques Chirac fasse un score nettement supérieur à celui qu'il fera au second tour. Et pourquoi il ne rassemble pas tous les électeurs de droite? Parce que toute une série des électeurs de Le Pen vont dans l'abstention et pour certains vont voter Jospin.
Oui, pour le reste, c'est Jacques Chirac qui remportera ce deuxième tour, alors que tout le monde le croyait battu encore 2 mois plus tôt, obtenant donc 52,6% des suffrages exprimés et Lionel Jospin 47,4%.
Je remercie chaleureusement les 15 millions de Françaises et de Français qui m'ont apporté leur suffrage dans ce grand moment de confrontation démocratique qu'est une campagne présidentielle. J'invite toutes celles et tous ceux qui croient aux valeurs de justice et de progrès à se rassembler pour prolonger cette espérance et préparer les succès de demain.
Merci à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Soyons unis, mes chers compatriotes. Soyons tolérants et fraternels. Alors la France redeviendra un phare pour tous les peuples du monde, et c'est sa vocation. Vive la République et vive la France!
Alors c'était Jacques Chirac et Lionel Jospin il y a 7 ans, Jacques Chirac gagnant les élections de 95. C'était la dernière élection avant celle qui vient, le 21 avril prochain. Pascal Perrineau, on se retrouve encore aujourd'hui en situation de cohabitation, sauf que maintenant c'est un peu à front renversé, le Premier ministre est de gauche et non plus de droite, et le président c'est l'inverse. On se retrouve aussi avec 5 des candidats de 95 qui sont encore en lice en 2002. Quelles leçons peut-on tirer dans la perspective des élections qui viennent de cette élection de 95 dont on vient de parler avec vous?
Alors je crois en effet que vous insistez sur l'absence de renouvellement, on a un peu toujours les mêmes. Cette élection à venir de 2002 s'inscrit assez bien dans les leçons principales de l'élection de 1995. L'élection de 1995, c'est une élection présidentielle où il y a une chute très sensible de la passion politique. L'élection présidentielle sous la 5e, c'était la grande affaire affective des Français. En 95, il y a une banalisation. L'élection présidentielle devient une élection à la limite parmi d'autres, et l'élection de 2002 s'inscrit dans cette dépassionnalisation, si on peut user ce néologisme, de l'élection présidentielle sous la 5e République. Et on le verra, par exemple, dans un taux d'abstention certainement assez élevé.
Les sondages s'étaient trompés en 95, ils peuvent se tromper en 2002 aussi.
Non, mais là je crois, il n'y a pas besoin d'avoir recours aux sondages. si vous voulez, tous les indicateurs montrent que l'élection passionne beaucoup moins et que ça se traduira certainement par un record d'abstention à une élection présidentielle sous la Ve République. Et puis c'est également, à côté de l'ancien qui se reproduit, il y a l'émergence tout de même de nouveaux acteurs. En 95, on voit bien la confirmation de nouveaux acteurs à l'extrême droite, le souverainisme avec De Villiers, une extrême gauche, une gauche de la gauche qui commence à pointer son nez avec Laguiller qui passe pour la première fois dans une élection présidentielle au-dessus de 5%. Et on voit bien comment en 2002, toutes ces tendances, au fond, sont en train de se confirmer et comment les Français cherchent confusément un renouvellement, mais pour l'instant, un renouvellement plutôt dans des acteurs qui sont un peu ou bien en dehors du système ou bien à la périphérie du système. C'est une vieille trace de la culture politique révolutionnaire qui a été pendant très longtemps dominante en France.
Merci Pascal Perrineau. Je rappelle donc que vous avez dirigé la publication avec Colette Ismal d'un livre, Le vote de crise, l'élection présidentielle de 95, publié aux presses de Sciences Po, ainsi que le dictionnaire du vote qui a été édité en 2001 aux presses universitaires de France. À lire également Les présidents de la République d'Éric Branca, un beau livre publié aux éditions Molière-Valmonde. Vous avez pu entendre des archives tirées du documentaire présidentiel 65-95, Les surprises de l'histoire, récemment diffusé sur France 2. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Dumont, Archivina, Raissa Blankoff et Sandra Escamez. Documentation Anne Weinfeld et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
La semaine prochaine, après cette série de 2000 ans d'histoire sur les 6 élections présidentielles qui ont précédé celles du 21 avril prochain, nous remonterons beaucoup plus loin dans le temps avec lundi une ville chargée d'histoire, Alexandrie, mardi la Régence, l'époque où Louis XV était trop jeune pour régner, mercredi un poète, Guillaume Apollinaire, jeudi un marin, Éric Tabarly dont viendra nous parler Jean-Michel Barrault, enfin vendredi comment est né le mythe du maréchal Pétain. Il est 14h30 sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous. À lundi prochain, je vous laisse en compagnie de Chris.